Info matin, Nicolas Legrand.
L'économie calédonienne s'est effondrée en 2024. C'est sans surprise la conclusion du rapport annuel de l'IEOM. Pour cette année, les défis sont majeurs entre crise du nickel et discussions sur l'avenir. Peu, voire pas d'infos d'ailleurs sur Bougival. Les négociations se poursuivent au moins jusqu'à vendredi. L'actualité sur le territoire est intercontinentale qui pourrait ne pas exploiter le Ouadrabet. La chaîne dira la semaine prochaine si elle se maintient dans le projet après son placement en redressement judiciaire. La Sodil prépare déjà un plan B. En métropole, Bouches-du-Rhône, Aude, Hérault, les départs de feu se multiplient. À Marseille, les flammes menacent même les quartiers nord. Emmanuel Macron réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le président de la République vient d'entamer une visite d'État à Londres et il s'est exprimé devant les parlementaires. Le sport, le Tour de France avec une victoire de Tadej Pogacar cette nuit sur la quatrième étape entre Amiens et Reims. Au sprint, il a devancé Mathieu Van Der Poel qui conserve son maillot jaune. Les mini-jeux du Pacifique avec deux nouvelles médailles décrochées hier par les cagoules. La compétition se termine aujourd'hui. On signalera donc cette médaille d'or pour Tom Lulay sur le saut en longueur handisport et l'argent pour les triathlètes sur le relais mixte. La météo en Nouvelle-Calédonie, belles éclaircies sur la côte est. Sur la côte ouest, le ciel d'abord dégagé se charge au fil des heures de nuages issus du relief. Comprises entre 25 et 27 degrés, les températures se maintiennent légèrement au-dessus des normales.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité économique.
Oui, avec l'IEOM qui publie donc son rapport annuel sur l'économie calédonienne. Et sans surprise, l'Institut d'émission rappelle que les émeutes affectent profondément l'économie de la Nouvelle-Calédonie en 2024 et va même jusqu'à évoquer, Léo Fichou, un effondrement de cette économie.
10 à 15% de PIB perdu, c'est l'estimation du Sérum après cette année marquée par les émeutes et la crise du nickel. Le climat des affaires a atteint son plus bas historique. En 2024, le moral des chefs d'entreprise a été moins bon que lors de la crise sanitaire. De nombreux indicateurs témoignent de cet effondrement. La consommation des ménages ralentit en raison de la perte de pouvoir d'achat, mais aussi des fermetures de magasins aux premières semaines des violences de mai. Par exemple, la production de crédit a baissé de 44% par rapport à 2023. Les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de 49,9%. Le montant des paiements par carte bancaire et des retraites de billets a baissé de 8,1%. On note également que 11 500 personnes ont perdu leur emploi. Tous les secteurs sont concernés par les graves conséquences des violences. C'est même une crise sans précédent pour la filière nickel. La production métallurgique s'est effondrée de 48,6%. Le nombre de touristes a lui aussi enregistré une nette baisse, moins 52,5%. Enfin, du côté du BTP, la consommation de ciment, qui est un indicateur de l'activité, baisse elle aussi de 34,3%.
Et dans son rapport annuel, l'IOM évoque aussi la situation fortement dégradée des finances publiques du territoire.
L'Institut affirme que sans le soutien financier de l'État, la continuité des services publics n'aurait pu être assurée. Financement du chômage, du système de santé, de l'alimentation électrique ou encore le versement des retraites des fonctionnaires. Après ce bilan, l'IOM dresse les perspectives pour 2025. L'Institut indique que la Nouvelle-Calédonie fait face à des défis majeurs, notamment dans le secteur du nickel, avec des cours mondiaux qui continuent de baisser. L'IOM évoque enfin les discussions sur l'avenir. Je cite, « L'absence de visibilité et d'espoir d'un accord à court terme continue de peser sur des acteurs économiques considérablement fragilisés. » Fin de citation.
Et justement, concernant ces discussions politiques, elles se poursuivent à Bougival, toujours dans la plus grande discrétion. Aucune information ne filtre depuis jeudi et le début de ces négociations entre les délégations calédoniennes et l'État. Les discussions sur l'avenir institutionnel se font désormais sur la base de la recherche d'un accord définitif, sans période transitoire, et sur la base du résultat des trois référendums. Et elles se déroulent sous différents formats, en plénière, en bilatéral, entre Calédoniens ou avec les représentants de l'État. Mais elles sont toujours entourées, vous le savez, de la plus grande confidentialité. Le seul élément disponible, c'est que ces discussions, qui devaient à l'origine se terminer lundi soir, doivent se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. On peut penser que c'est plutôt un bon signe et que les partenaires politiques continuent à chercher une solution, voire un accord définitif.
À Radio Rythme Bleu, 6h35.
Je le disais en titre, la Sodil veut ouvrir le Ouadrabet à la fin de l'année. La société Gigadex, qui doit exploiter l'hôtel, a été placée en redressement judiciaire le 30 juin dernier. Le commissaire aux comptes avait fait un signalement au procureur de la République car le projet accumule les dettes et n'a aucune rentrée financière après avoir essuyé des retards. Ce placement en redressement judiciaire ouvre une période d'observation de 6 mois durant laquelle la Sodil peut terminer les travaux afin d'envisager une ouverture. Toutefois, cette décision de la justice peut avoir des conséquences sur le partenariat avec Intercontinental, qui pourrait décider de rompre le contrat lors d'un rendez-vous fixé la semaine prochaine. La Sodil cherche donc déjà des solutions alternatives. Écoutez Jacques Jalloué, son président.
C'est des discussions avec Intercontinental pour voir si on reste partenaire sur cet hôtel. On a préparé un plan B au cas où Intercontinental ne nous suit pas, pour ouvrir l'hôtel quand même avec du personnel local. Donc on a déjà identifié le directeur d'exploitation qui lui-même est déjà en train de travailler. Nous pensons qu'il faut ouvrir cet hôtel aussi aux Calédoniens, donc il faut leur donner l'accès, notamment au niveau des prix des nuitées. Donc on y travaille et ça serait surtout, on pense qu'on ne pourra pas tenir un service 5 étoiles, donc on se situera plutôt sur une catégorie 4 étoiles. Si on fait une gestion directe, bien plus abordable pour les gens.
Et pour préparer l'ouverture, des femmes de ménage travaillent déjà sur place ainsi que des équipes de nettoyage pour les espaces extérieurs. En revanche, la Sodil dément les rumeurs qui faisaient état d'importantes dégradations sur le site après les violences de 2024. Un sujet dont nous reparlerons ce matin sur l'antenne de Radio Rythme Bleu puisque le président de la Sodil sera notre invité à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Selon vous, l'hôtel Ouadrabet de Lifou, dont l'ouverture est sans cesse repoussée, va-t-il parvenir un jour à accueillir des clients? Si vous pensez que oui, alors vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. 55% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être déçus qu'il ne puisse pas y avoir de feux d'artifice sur le territoire pour le 14 juillet. Ils sont tout de même 45% à être déçus de cette situation. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h passées de 38 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment un bilan de la qualité de l'air en 2024 après les émeutes de mai.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés Casino, cagnottez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés Casino. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse. Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
Rhume, nez bouché, nez qui coule. Stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité sur le territoire et une journée pour rendre hommage à la police nationale. Une cérémonie se déroulait hier matin à l'école de police de Normandie en présence des autorités civiles et militaires, des familles et des proches. Et ils étaient d'ailleurs nombreux à s'être rendus à Normandie pour leur rendre hommage. Écoutez le contrôleur général Marjorie Ghisoli, directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie, qui souligne l'investissement dont font preuve ces policiers au quotidien.
Ça représente pour nous tous les policiers la fierté de l'être. Cette cohésion bien nécessaire et bien importante dans nos métiers et dans cette belle famille de la police. Et puis c'est aussi un moment où on pense à tous nos collègues qui sont décédés, blessés, et on en a évidemment. Et malheureusement en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa, je rappellerai les derniers blessés graves que nous avons eus pendant les émeutes. Mais c'est vraiment un moment de rassemblement de toute notre police, de toute la police nationale.
19 policiers ont été décorés pour leur dévouement, leur courage et leur professionnalisme, mais aussi pour récompenser leurs années de service. Un dépôt de gerbe a également été effectué pour rendre hommage aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions. Les émeutes de mai ont fortement dégradé la qualité de l'air en Nouvelle-Calédonie. Scalaire a dressé hier le bilan de l'année 2024. Les feux d'entreprise ont provoqué des pollutions importantes dans les secteurs notamment de Montravel, Logicop, Vallée du Tir ou encore Ndu, où Scalaire exploite des stations. Manina Tehey est la directrice de Scalaire.
21 dépassements sur le surnouméa essentiellement, tous observés entre le 14 mai et le 26 mai, avec encore des petits dépassements au début juin. Donc c'est vraiment ce qu'on doit retenir, un bilan de la qualité de l'air particulier, parce que les seuls dépassements observés ont été faits pendant ces exactions. Ces 21 dépassements sont essentiellement et uniquement des particules fines, hein, PM10 et PM2,5, à peu près sur la même quantité. Donc ça veut dire que ces particules en fait sont composées de traceurs d'incendie avec des métaux et d'autres substances et d'autres éléments qu'on n'observe pas d'habitude lorsque l'on fait notre surveillance à l'année. Par exemple, des particules d'arsenic, du plomb aussi en quantité non observée d'habitude, et puis des dioxines et furanes aussi qui potentiellement peuvent être aussi relarguées lors d'incendies.
Et après cet épisode inédit, Scalaire aimerait poursuivre ses études, mais l'association manque de financement et a donc dû réduire la voilure. Nina Julier est la présidente de Scalaire.
Les exactions ont eu un impact considérable sur l'environnement et donc sur la santé des Calédoniens. Nous avons, avec la DAS, commencé à partir de nos mesures à dégager quels étaient les différents polluants émis pendant cette période. Il conviendrait maintenant de faire un partenariat avec l'université, par exemple, pour analyser ces polluants et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la santé des Calédoniens. Et aujourd'hui, effectivement, par manque de financement, nous ne pouvons pas poursuivre cette étude. Très concrètement, la participation du gouvernement annuellement, c'est 16 millions, soit à peu près 20% de notre budget. Et cette année et l'année dernière, nous n'avons obtenu aucun financement, ce qui nous a contraints à supprimer certaines missions de Scalaire, notamment la station de Lanzvata, puisqu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus par faute de financement.
Scalaire veut donc trouver d'autres sources pour moins dépendre des collectivités. Auparavant, le financement public représentait 70% de son budget, le reste étant à la charge des acteurs économiques sur le principe du pollueur-payeur. La Nouvelle-Calédonie face au changement climatique. L'année dernière, le gouvernement a engagé un travail de concertation pour doter la Nouvelle-Calédonie d'une stratégie d'adaptation. Le 29 avril dernier, cette stratégie a été présentée au Congrès et adoptée à l'unanimité. Et c'est donc dans ce contexte que la seconde édition du Forum calédonien du changement climatique se déroulera le 22 juillet prochain. Il regroupera à l'Université de la Nouvelle-Calédonie différents acteurs institutionnels, académiques et de la société civile. Cette année, l'accent sera placé sur la donnée scientifique, d'où l'implication de l'UNC dans le Forum calédonien, comme l'explique sa directrice, sa présidente Catherine Riss.
C'est un espace d'échange et de diffusion des résultats de la recherche, des solutions qui sont trouvées, qui ont été développées notamment par des start-up, des entreprises qui sont issues de la recherche et de l'innovation, et de pouvoir échanger avec le grand public sur ces données. Et dans le domaine de la recherche, on a notamment le programme de recherche du CRISICA, donc qui est le consortium qui regroupe les organismes de recherche autour de l'université, qui déploie sa programmation cette année autour de projets en lien avec le changement climatique. Et on parle des personnes qui sont sceptiques aux données, mais là, ça permet ce débat, ça permet de pouvoir apporter des éléments objectifs, des éléments factuels qui permettent d'apporter de l'information en fait sur ce que dit la science aujourd'hui sur ces questions.
Et ce forum se déroulera donc le 22 juillet prochain à l'UNC. Il est ouvert au public. La participation aux tables rondes et aux séminaires se fait sur inscription sur le site du gouvernement. Il est 6h44. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et notamment Marseille qui est menacée par les flammes.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Dimanche 13 juillet, rendez-vous dès 10h au fort de Terrain-Bas pour le Calédonian Show 2025. Au programme, des expositions, des promenades à cheval et en véhicule d'époque, et à 14h30, le nouveau spectacle historique interprété par plus de 100 figurants en costume. Réservation sur étiquette.nc et plus de renseignements sur www.fort-terrainbas.com.
Croquettes Walpi au meilleur prix, c'est encore et toujours chez Cheval Distribution. Jusqu'au 20 juillet, ne ratez pas nos prix imbattables. Sur les croquettes chiens Walpi Croque 18 kg seulement à 3 895 francs. Et Walpi Tonic 18 kg à 4 095 francs chez Cheval Distribution.
RRB. Nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Matin avec l'actualité en métropole, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le feu donc aux portes de Marseille, le trafic aérien est à l'arrêt, l'autoroute A55 est fermée. Un incendie qui est parti de la commune voisine des Pennes-Mirabeau. Les flammes touchent maintenant le 16e arrondissement dans les quartiers nord de Marseille. Attisées par un vent violent, les flammes ont parcouru plus de 750 hectares de végétation. Une situation qui est sur place très complexe, Stéphane Burgat.
Ouais, effectivement, avec cette fumée au-dessus de Marseille, ces flammes qui ont déjà touché des habitations au nord de la ville, quelques évacuations ont été décidées, mais le message donné est bien celui de rester confiné chez soi, à l'abri. Il faut dire que la circulation dans la ville est tout simplement chaotique en raison de la fermeture de cette autoroute. C'est pourquoi le maire Benoît Payan appelle les habitants à ne pas céder à la panique. Écoutez.
Moi, je veux rester très prudent. Je veux rassurer les Marseillais en leur disant qu'on est là. Il faut qu'ils restent prudents, c'est-à-dire on évite de prendre la voiture pour ne pas engorger le réseau routier. Quand on est dans le 16e, on reste confiné. C'est une guérilla que mène le bataillon de marins-pompiers. Ils ont les lances à la main et ils sont au contact du feu pour protéger les habitantes et les habitants de la ville de Marseille.
Les forces sur place sont considérables. 720 sapeurs et marins-pompiers sont déployés avec des renforts qui arrivent encore ce soir. On peut en voir venir de Lozère notamment et de nombreux moyens aériens. Le balai des avions, des hélicoptères bombardiers d'eau est incessant, ce qui rend le préfet Georges-François Leclerc optimiste quant à l'évolution de cet incendie.
On ne peut pas dire que la situation est figée, la situation est maîtrisée. Pourquoi ? Parce que nous avons des moyens importants qui sont engagés. 9 moyens aériens sont actuellement engagés. 5 avions bombardiers d'eau, un Dash et 4 Canadair. Nous aurons à terme 4 hélicoptères bombardiers d'eau. 2 lourds, un qui est actuellement engagé, un autre qui est en train d'arriver, plus 2 hélicoptères bombardiers d'eau légers qui nous viennent du département du Var.
Alors le vent reste puissant, tourbillonnant pour l'heure, peut-être que vous l'entendez dans mon micro, mais il devrait baisser en intensité dans le cours de la soirée avant de tomber complètement demain matin selon les prévisions météo des pompiers.
Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, doit se rendre sur place dans les prochaines heures. J'ajoute qu'à Narbonne, 2000 hectares ont été touchés, l'autoroute A9 a dû être fermée et de nombreux habitants d'un village ont été contraints de quitter leur maison. L'incendie n'est ni fixé ni maîtrisé, préviennent les pompiers. Enfin, dans l'Hérault, l'A9 a également été fermée, mais après le départ de plusieurs feux, les conditions météo difficiles ne facilitent pas le travail des sapeurs-pompiers sur place. Stupeur sur le Tour de France, un CRS a été blessé à la main par un homme armé d'un couteau. Les motivations et les circonstances restent floues pour le moment, mais cet individu avait été repéré par des riverains en raison de son comportement suspect, William Molinier.
Oui, au niveau du cimetière communal qui se trouve sur le parcours du Tour de France. Il est aux alentours de 15h cet après-midi, quand cet individu menaçant, porteur d'un couteau, est signalé à la police. Des CRS interviennent, mais à leur vue, l'individu suspect prend la fuite. Les policiers engagent alors une poursuite, parviennent à son niveau. L'homme se retourne vers les CRS et porte un coup de couteau à un major. Son gilet pare-balles l'a sans doute sauvé d'une très grave blessure, rapporte une source policière. Un de ses collègues fait usage de son arme. Le suspect est blessé par balle au niveau des jambes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Quant au CRS, il est légèrement blessé à la main. Selon les informations d'Europe 1, l'homme était porteur d'une djellaba. Il parlait arabe. Il est âgé de 21 ans et est déjà connu des services de police, mais pas des services de renseignement. Il a été signalé le 24 juin dernier, date depuis laquelle il se trouvait en fugue d'un hôpital. À ce titre, il était signalé comme dangereux au fichier des personnes recherchées.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. En bref, 2 ans après la mort du petit Émile disparu à Vernet le 8 juillet 2023, ses parents sont sortis du silence. Dans une lettre bouleversante, ils témoignent de leur douleur et racontent cette angoisse qui ne les a, à leur grande surprise, pas tués sur place. Au cours de ces 24 derniers mois, ils déplorent d'avoir dû subir l'injonction permanente d'étaler au grand jour leur détresse. Marie et Colomban-Soleil espèrent toujours connaître la vérité, c'est ce qu'ils disent dans cette lettre. Je rappelle que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés quelques mois après sa disparition. En bref, 316 voix pour, 223 contre. Le Parlement adopte définitivement la loi Duplon qui prévoit d'alléger certaines contraintes sur le monde agricole. Elle réintroduit notamment, sous condition, un pesticide néonicotinoïde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h50.
Emmanuel Macron est à Londres, une visite d'État sur le thème du renforcement de l'entente cordiale. Le chef de l'État, accompagné par Brigitte Macron, a été accueilli par le prince William et Kate. Direction ensuite Windsor, où ils ont été reçus par le roi Charles III et la reine Camilla, avant de défiler en carrosse dans les rues de Londres. Emmanuel Macron a ensuite prononcé un discours dans la galerie royale du palais de Westminster, devant les parlementaires. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Exactement, un long discours dans la langue de Shakespeare, dans un cadre chargé d'histoire. Emmanuel Macron s'est exprimé devant les membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes réunis avec un message principal pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine.
Ensemble avec vous, Monsieur le Premier ministre, nous avons décidé de lancer en février dernier cette coalition de volontaires et cette coalition n'était que le signal que les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine, jamais.
Plus largement, le chef de l'État appelle la France et le Royaume-Uni à travailler ensemble pour défendre l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les deux nations, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont un rôle clé à jouer. S'il a qualifié le Brexit de profondément regrettable, le président français a tenu à dire qu'il en respecte le choix. Premier dirigeant européen reçu en visite d'État à Londres depuis le retrait britannique de l'Union européenne, Emmanuel Macron a surtout voulu montrer que la relation franco-britannique restait un pilier de la stabilité du continent.
Arthur Delaborde, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. 6h52, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On ira évidemment sur les routes du Tour de France, mais aussi à Cahors pour les mini-jeux du Pacifique.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Comment devenir le meilleur de tous les temps? En un mot, le GOAT des soirées cinéma. Étape 1, profitez de l'offre du moment Canal+, avec les plateformes Apple TV+, Max, Paramount+, et bien sûr, les 10 chaînes Canal+, incluses, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. Étape 2, à vous le cinéma ultra récent, le sport en direct et les séries exclusives sur votre télé, votre mobile ou votre tablette. Étape 3, plus aucun doute, vous êtes le GOAT des soirées cinéma. À vous le streaming Canal+, Apple TV+, Max et Paramount+. Plus pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. GOAT, le meilleur de tous les temps. Offre avec abonnement mensuel au tarif de 4000 francs par mois, valable jusqu'au 31 juillet et soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com ou en Canal Plus Store.
Du 4 au 27 juillet, c'est l'anniversaire chez Gémeaux Chaussures et Vêtements. Rendez-vous en magasin, scannez un QR code et tentez de remporter instantanément un bon d'achat de 500 à 10 000 francs. Vous n'avez pas gagné? Vous participez au tirage au sort final, vous permettant de repartir avec 3 voyages pour 2 en Australie, soit un total de plus de 1,5 million de francs de cadeaux. L'anniversaire Gémeaux, du 4 au 27 juillet, c'est aussi des prix de folie avec des remises jusqu'à 50% sur une large sélection d'articles.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Jeux sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Burigna.
C'est la dernière semaine pour profiter des offres Ford Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à 600 000 francs de remise sur les modèles Ford Ranger, Puma, Everest, Kuga, Bronco et le Tourneo Courier. Puissance, fiabilité, style, tout y est. Rendez-vous chez Ford aux portes de fer. Offre valable sur véhicules signalés. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du cyclisme avec le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Quatrième étape de la grande boucle entre Amiens et Rouen, remportée cette nuit par Tadej Pogacar.
Le grand favori est là, en forme, et il le fait savoir au terme d'une bagarre entre les leaders de ce tour. Tadej Pogacar s'est offert sa 100e victoire en carrière. Il a dominé au sprint un petit groupe d'échappés. On l'écoute.
Je suis super content et super fier de ce qu'a fait l'équipe aujourd'hui. C'est incroyable. Ouais, on verra demain. Parce que demain, c'est vraiment le test, quoi. Mais déjà, voilà, j'ai gagné une étape avec ce maillot et pour moi, c'est assez. Je vais juste prendre du plaisir sur cette course. Évidemment qu'on va aller pour le maillot jaune, mais on verra.
Tadej Pogacar, vainqueur de cette quatrième étape. Mathieu Van Der Poel, deuxième, conserve son maillot jaune de leader. Classé dans le même temps, le Néerlandais et le Slovène sont départagés à l'addition des places obtenues depuis le départ de ce Tour de France. Jonas Vingegaard, troisième de l'étape, est également troisième au classement général à 8 secondes des leaders. Côté français, Romain Grégoire termine cinquième, Kevin Vauclin dixième. Ce dernier conserve son maillot blanc de meilleur jeune. Il est cinquième au classement général.
Du football ce matin avec la première demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. En attendant le duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid demain, Chelsea est opposé au Brésilien de Fluminense. La rencontre a débuté à 6h. Le score pour l'instant est de 1-0 en faveur des Anglais à la mi-temps. En tennis, Carlos Alcaraz s'est qualifié sans trembler pour les demi-finales de Wimbledon.
L'Espagnol a dominé en 3-7 et en seulement 1h41 de jeu le Britannique Cameron Norrie. En demi, Carlos Alcaraz affrontera l'Américain Taylor Fritz, tombeur en 4 manches de Karen Khachanov. Dans l'autre partie de tableau, on est encore au stade des quarts de finale. On retrouvera ce soir le numéro 1 mondial Yannick Sinner contre Ben Shelton et Novak Djokovic contre Flavio Cobolli. Chez les dames, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, tient son rang. Elle est en demi-finale et sera opposée à Amanda Anisimova.
On ouvre à présent notre page spéciale mini-jeux du Pacifique.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux avec l'avant-dernière journée qui s'est clôturée de la plus belle des manières pour la délégation calédonienne, Léo Fichou.
Tom Lullet, porte-drapeau des Cagous, a remporté sa deuxième médaille d'or lors de ces mini-jeux. Après le 100 mètres, l'athlète handisport, accompagné et guidé par Germain Ouéguéné, s'est imposé sur le saut en longueur. Il a réalisé un saut à 5,68 m. C'était lors de son troisième essai. Deuxième médaille d'or pour lui donc lors de ces mini-jeux. Autre finale en athlétisme hier soir, celle de Nicolas Cazareru sur le 200 mètres. Malheureusement, le Calédonien n'est pas monté sur le podium. Il termine sixième. Le Calédonien a tout donné, mais le niveau était trop élevé.
À crever, fatigué, la température est assez élevée quand même. Le soleil, les gens, mais quand même content que malgré ça, bah, sur 32 personnes, j'ai réussi à être dans, on va dire, top 6. Les 3-4 premiers, c'était vraiment très très fort. Mais ouais, c'était assez impressionnant de voir des gens comme ça. Et là, j'ai qu'une seule envie, rentrer en France pour m'entraîner deux fois plus pour Tahiti. La façon dont il m'a battu, je voulais la faire la même à Tahiti.
Nicolas Cazareru, revanchard après sa sixième place sur le 200 mètres.
Et c'est donc ce matin Natalia Prado qui va tenter de décrocher une troisième médaille en trois courses.
Une médaille d'argent vendredi sur le 10 000 mètres, une autre sur le 5 000 mètres, c'était lundi. Natalia Prado réussit jusqu'à présent ses mini-jeux. Hier, elle a bien préparé sa dernière course, le semi-marathon, dans l'espoir de remporter une nouvelle médaille. Et pourquoi pas, cette fois, monter sur la plus haute marche du podium.
Eh bien, pour ceux qui n'aiment pas le plat, qui disent qu'ils ne veulent pas faire des semi-marathons parce que c'est tout plat, il faut venir à Palau. Parce que quand on regarde le profil, on dirait plutôt le profil d'un trail. Ça va être un semi-nocturne parce que le soleil ne sera pas levé. Pas mal de dénivelé, donc il va falloir bien gérer le débit de course et garder un peu de jus pour la fin parce qu'il y a une petite pause à la fin.
Natalia Prado s'était lancée il y a quelques minutes sur le semi-marathon. L'arrivée ne devrait pas tarder pour elle puisqu'on estime sa course autour d'une demi-heure. Ce mercredi, c'est donc le dernier jour des mini-jeux du Pacifique. Les triathlètes sont engagés ce matin sur l'aquathlon en individuel. Écoutez Mathieu Salamacha.
Ben, on a tous les quatre hâte d'y être parce que c'est aussi le troisième jour de compétition. Donc, mine de rien, les organismes commencent à être un peu fatigués et je pense qu'on a une petite carte à jouer. On est en forme, on récupère bien, on mange bien, on dort bien. Donc, on a hâte, vraiment hâte d'y être. On s'est entraîné pour ça, c'est trois jours de compétition. Donc, j'espère qu'on terminera en beauté.
Les triathlètes qui démarreront donc l'aquathlon à 9h30 pour nous.
Et au classement général des médailles, avec les dernières épreuves, la Nouvelle-Calédonie est 7e avec 29 médailles, 6 en or, 8 en argent et 15 en bronze.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et on termine avec un mot de volley pour signaler que Sabina Ouéguéné continue son aventure avec l'équipe de France. Avec les Bleus, la Calédonienne va disputer la troisième semaine de la Ligue des Nations au Japon face aux pays hôtes, mais aussi contre le Brésil, la Bulgarie et la Corée du Sud. Et puis un mot de football. En métropole, l'intersaison est synonyme de transfert, Léo Fichou. Et parmi les nombreux mouvements de joueurs, on signalera ceux de deux Calédoniens.
Oui, deux internationaux. Fonzi Ranchin, défenseur de Gaïcha, qui s'envole pour la métropole. À 30 ans, il rejoint l'USSA Vertou en National 3 et les nombreux joueurs du Caillou qui évoluent déjà sous les couleurs du club de Loire-Atlantique. De son côté, Jean-Jacques Catraoua continue son aventure en Corse, mais l'attaquant de 25 ans change de club. Il quitte Sud FC pour rejoindre le Gallia Club Luciana, là aussi en National 3.
Merci Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le soleil dominera sur la façade ouest, ailleurs les nuages persisteront et circuleront dans l'Alizé, distillant de ci et de là quelques petites averses. L'Alizé orienté à l'est pour ce matin, autour des 10 nœuds, localement 15 nœuds sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera orienté sud-est, il sera variable faible. Voyons voir pour cet après-midi, belles éclaircies sur la côte est. Sur la côte ouest, le ciel sera d'abord dégagé, il se chargera au fil des heures de nuages issus du relief. Enfin sur les Loyautés, la pointe sud et l'île des Pins, les nuages domineront et donneront quelques ondées. Sur la côte est et au Loyauté, le vent sera orienté à l'est autour des 10 nœuds. Sur l'ouest, il sera au sud-est autour des 10 nœuds toujours. Et aux extrémités de nord et sud, il sera compris entre 10 et 15 nœuds de secteur est. Les températures, elles sont comprises en général entre 25 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.